Vous écoutez Lilin Info, le magazine consacré à l'Université Lilin, chaque mercredi entre 17h30 et 18h sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Bonjour à toutes et à tous, alors vous êtes à l'écoute de Lilin Info sur Radio Campus comme chaque mercredi entre 17h30 et 18h. Aujourd'hui on va parler d'une manifestation qui s'appelle Majestic 2012, c'est une conférence scientifique avec donc Anne Etienne qui est docteur en informatique de l'Université Paris 1 et maître de conférences à Polytech depuis septembre 2007 et toute l'équipe d'organisation, enfin une partie de l'équipe d'organisation donc de cet événement. Bonjour Anne Etienne.
Bonjour, la conférence Majestic vient de se terminer, elle a eu lieu hier, avant-hier et aujourd'hui, donc du lundi au mercredi. Et j'étais présidente du comité scientifique de la conférence.
Voilà. Donc, le thème de cette conférence, c'était exactement ?
Alors, c'était les technologies de l'information et de la communication en général, avec plus particulièrement le réseau, le génie logiciel, l'automatique, tout ce qui tourne au TIC en général.
C'était organisé par qui ?
Alors, c'était organisé par les laboratoires à l'IFL et la GIS. On avait comme partenaire l'Université Lille-1, INRIA, Polytech, l'Université Lille-Nord de France et bien sûr les deux laboratoires.
Alors, on va présenter l'équipe qui nous a rejoint. Donc, il y a...
Je suis Rama Lahni, je suis la vice-présidente du comité scientifique.
Très bien.
Donc Nicolas Gouvy, je suis membre du comité d'organisation et doctorant en informatique dans le laboratoire INRIA et l'IFL.
Donc, je suis Adèle Bouidi, je suis pareil membre du comité d'organisation. Je suis pareil doctorant à l'INRIA et à l'IFL.
Voilà, donc 3 jours pour parler de ce thème. Donc, vous avez eu le temps de le développer largement comme vous le souhaitez.
Alors en fait, la conférence magistique a une particularité, c'est qu'elle est faite pour, par et avec des jeunes chercheurs qui sont majoritairement soit doctorants, soit même en licence ou en master. Et c'est en quelque sorte leur première conférence. Et donc, on a traité différents sujets en fonction des articles qui étaient présentés.
Mmh. Parmi ces thèmes, vous présentiez vous-même un de ces thèmes ou...
Non, en fait, nous organisons la conférence, mmh. mais les participants sont des doctorants et des jeunes chercheurs qui viennent de toute la France et des pays francophones.
Mmh. Est-ce qu'il y avait un public qui venait de l'extérieur ou c'était uniquement des gens qui étaient de l'université Lille-1 ou...
Non, c'est une conférence internationale. Donc mm-hmm. on a eu beaucoup de personnes qui venaient d'autres régions de la France et d'autres pays francophones, l'Afrique du Nord ou la Belgique ou la Suisse.
Donc 3 jours, c'était l'occasion aussi de conclure sur quelque chose, sur quelques idées pour bâtir l'avenir, on va dire.
Bien sûr, bien sûr. C'était surtout un lieu d'échange entre les doctorants, les jeunes doctorants, qui, comme disait Anne, c'était leur première conférence. Donc c'était pour eux une expérience d'échanger et de savoir, d'apprendre comment participer à une conférence.
Mmh. Donc dans ces personnes qui ont présenté des thématiques, on peut peut-être redonner quelques exemples pour nos auditeurs, de choses concrètes.
Hein. Alors par exemple, pour donner aussi un intervenant... qui a été industriel et non pas que doctorant. On a eu notamment le directeur de la recherche d'IBM France, M. Patrick Albert, qui est venu nous présenter pendant 1h30 la vision d'IBM du futur dans les 2 à 5 ans et des technologies qui sont susceptibles d'être disruptives et de vraiment changer la vie de tout le monde et de l'industrie. Alors après, pour les doctorants, c'est le top du top, l'état de l'art de leur recherche dans des thématiques donc très variées quand même.
Alors c'est vrai que si IBM veut changer le monde, ce serait bien d'être au courant et de savoir vers où IBM veut nous emmener.
Oui, exactement. En fait, cette conférence en premier lieu a offert l'occasion de découvrir l'univers des conférences en jeunes chercheurs. Et après, c'était un lieu pour échanger, pour enrichir les futures recherches et leurs connaissances. Surtout qu'il y a plusieurs disciplines qui sont couvertes dans tout ce qui est sciences et technologies de l'information et de la communication. Donc, c'était vraiment plusieurs thématiques et c'était vaste et c'était enrichissant.
Alors pour ceux qui ont assisté à la conférence sur IBM, est-ce que vous avez une idée pour nos auditeurs du contexte futur de leur vie, de leur cadre ? Est-ce que ça va beaucoup changer, par exemple ?
Alors oui, ça va beaucoup changer. D'abord, le métier d'IBM a beaucoup changé puisqu'ils sont partis du matériel. C'est eux qui ont créé les premiers ordinateurs et aujourd'hui, ils font des services. Ils ont, par exemple, c'est IBM qui est à l'origine de la machine qui a battu le premier joueur mondial aux échecs et qui a ensuite battu les meilleurs participants du jeu américain Jeopardy. Et en fait, bon, ça c'est pour rigoler, mais derrière il y a de la science. Et en fait, c'est comment on apprend un certain nombre, comment on apprend un grand nombre de données, comment on arrive à suivre des données, comment on arrive à les manipuler, etc. Et ça, c'est tout ce qu'ils ont appris pour gagner pour le jeu Jeopardy ou vis-à-vis de, du champion d'échecs, c'est pour que ce soit retransmis plus tard dans notre vie de tous les jours, par exemple quand on ira à l'hôpital pour mieux gérer les patients.
Donc entre manipuler les objets, les calculs, les nombres et manipuler les hommes, où est la frontière? Est-ce qu'il y a de l'éthique dans l'éthique?
Alors oui, il faut, ça c'est indispensable. Il y avait aussi de l'information, enfin une session sur la sécurité, donc pour la partie éthique aussi, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est vrai que cette partie-là éthique va peut-être relever plus d'un point de vue sociologique et sera moins abordée. En revanche, ce que nous, on a fait attention, et là aussi, il y a de l'éthique, c'est souvent la première conférence des doctorants et le plagiat, on n'a pas le droit d'en faire. Donc là aussi, il y a un certain nombre de déontologies, d'éthique à avoir.
Donc, vous dites que les doctorants s'initient au travers de cet exercice à l'art de la rhétorique, c'est un peu ça aussi?
Oui, parce que pour certains, c'était la première fois qu'ils présentaient. Quand on est en licence, on n'a pas souvent fait un article de recherche. Le présenter devant des gens qu'on ne connaît pas... Alors, le présenter, c'est pas forcément le plus difficile, mais c'est qu'après, y a quand même 10 minutes de questions et il faut être capable d'avoir suffisamment de recul sur ses travaux pour répondre aux différentes questions. Il y a aussi, pour les doctorants qui sont dans l'assemblée, savoir prendre du recul et se dire, ce sujet de recherche, il n'est pas du tout dans mon domaine, mais je peux quand même en tirer quelque chose et poser des questions pour essayer d'en savoir plus. Donc oui, il faut apprendre des autres et apprendre à présenter ses travaux.
Ceux qui posent les questions, ils sont gentils en général ou ils vont un peu plus loin pour embêter un peu, mettre les gens en difficulté, les doctorants, pour les apprendre, leur apprendre à réagir?
Alors en fait, ça va dépendre. Si vous présentez après, vous allez être gentil parce que vous allez avoir peur qu'on vous pose une autre question. Mais il y avait quand même quelques docteurs dans la salle qui, eux, ne présentaient pas. Et en règle générale, on est gentil, d'autant plus dans cette conférence-là, puisque c'est pour apprendre. Et l'idée, c'est d'aider le doctorant ou l'étudiant en licence ou master à aller plus loin, à se poser d'autres questions qu'il n'a pas forcément vues, à aller voir d'autres travaux. Donc en règle générale, quand c'est votre première fois, on essaye d'être gentil avec vous parce qu'on a vraiment besoin qu'ils reviennent.
Et avant ces interventions, est-ce qu'il y a une préparation des doctorants? Est-ce qu'ils sont pris à part pour justement avoir quelques notions de comment se comporter en public quand on intervient?
Alors non, c'est un peu le principe de la recherche, c'est on est un peu directement jeté dans le grand bain et il faut apprendre. En revanche, quand on fait un article, souvent, surtout quand on est jeune, on l'écrit pas tout seul et donc on fait souvent une présentation devant les gens avec qui on a écrit le papier, qui vont pouvoir vous aider, et puis devant l'équipe qui va pouvoir vous donner un retour. Donc, en fait, c'est pas nous, organisateurs et membres du comité scientifique, qui les avons aidés, mais ils ont été aidés très certainement en interne.
Alors, ceux qui surnagent, ce sont les meilleurs orateurs ou les meilleurs scientifiques?
Non, les meilleurs orateurs, les meilleurs scientifiques, ils sont pas forcément des bons orateurs, même si c'est important de... Et ça fait partie du métier de savoir transmettre ses idées.
Donc, au niveau de l'Université Lille-1, est-ce qu'il existe des formations spécifiques pour la communication, ce type de travaux, de présenter un peu ce qu'on fait devant un public?
Alors, il y a un certain nombre de formations qui sont proposées via l'université, mais par le PRES, donc le regroupement des universités du nord de la France. Et il y a aussi, à l'inverse, une formation qui est destinée aux encadrants pour aider à encadrer, parce que c'est pas non plus inné d'encadrer, et donc pour apprendre aux gens à apprendre.
Mmh. On vit dans un monde où la communication est importante et un chercheur a besoin de communiquer et aussi de prouver qu'il a communiqué pour exister dans la communauté scientifique.
Alors oui, c'est pour ça que la première conférence est importante, parce qu'il en faut toujours une première. Et l'idée de Majestic, c'est de commencer le plus tôt possible. Donc en fait, on avait des étudiants en licence, en master, et l'idée, c'est de leur donner envie de continuer, de leur montrer que écrire un papier et se confronter à la page blanche, c'est pas quelque chose de simple. Et donc apprendre à en faire d'autres après et aller mieux, mieux avancer plus tard.
Quelques réactions ?
Oui, bah c'est Anne a bien pointé la chose. Hein. C'est pas le tout d'avoir une idée. Après, il faut la défendre. Vraiment la défendre avec tous les arguments scientifiques possibles, toute la pédagogie possible aussi. Majestic, c'était aussi énormément de thématiques et donc énormément d'apprentis chercheurs de domaines très différents. Et ce qui a notamment été évalué dans la conférence, c'était l'accessibilité. Savoir expliquer son idée, la rendre claire, c'est la base du métier de chercheur. Avoir une idée, c'est pas le tout. Après, il faut qu'elle émerge du lot. Et donc, le travail d'écriture, le travail oral de défense vraiment de son idée dans une conférence, ça fait partie du métier. Et c'est pour eux une bonne occasion d'avoir un public plutôt sympathique, qui n'est pas forcément expert dans leur domaine et qui pourra leur poser des questions qui sont pas forcément piégeuses aussi, comme peuvent le faire des docteurs ou des, entre guillemets, des compétiteurs qui ont d'autres idées dans le même domaine à défendre.
Est-ce qu'il y a des thématiques plus faciles que d'autres, hein, où il est plus aisé de communiquer ou qui s'adressent à un public plus large dans le cadre des conférences qui ont été données, par exemple ?
Il y a des thématiques qui peuvent paraître plus simples. Bon, par exemple, moi, je travaille dans les réseaux et je pense à tout ce qui est ergonomie. L'apparence graphique des logiciels à l'écran, le tactile, tout ça, ça peut paraître simple, mais quand on s'y intéresse, ne serait-ce qu'un petit peu, on voit que derrière, il y a toute une science, vraiment. Il y a des calculs hyper compliqués. Enfin, on n'imagine pas que, justement, souvent, c'est les idées les plus simples, les choses qui nous paraissent les plus simples, qui sont en fait les plus compliquées. Elles sont belles par leur simplicité, en fait. C'est vraiment un aboutissement qui fait qu'on a trouvé la solution la plus belle, la plus simple. Et elle nous paraît évidente, a posteriori, mais il a fallu des années pour en arriver là.
Alors, pendant un moment, on généralisait l'usage d'outils, genre PowerPoint, etc. Est-ce que c'est encore au goût du jour ou on évite un peu ce...
Ah non, l'outil PowerPoint est très utilisé. Bon, il y a aussi un outil plus, entre guillemets, scientifique, qui est le langage de programmation LaTeX, qui est utilisé pour la rédaction d'articles, mais aussi pour faire des présentations. Mais oui, le PowerPoint, tout le monde, tout chercheur a un PowerPoint ou un logiciel équivalent sur sa machine, avec tous les diaporamas qu'il a pu passer pour être prêt à faire une présentation dès qu'il a une occasion de le faire.
Mmh. Il y a des excès, des abus de ce type d'éléments, enfin de techniques, ou c'est normal ?
Non, il n'y a pas d'abus de ces techniques. Tout est normal, quoi. Enfin.
Voilà. Donc, est-ce que vous avez l'impression d'avoir atteint votre objectif ? Est-ce que c'est chaque année que cette manifestation se reconduit ?
Oui, en fait, c'est la 9e édition de cette conférence. Ça fait 10 ans que cette conférence a lieu. Au départ, il y a 10 ans, c'était une initiative de jeunes doctorants qui ont l'organisé et qui ont petit à petit suivi édition par édition dans ce qu'on appelle le comité de pilotage permanent. L'année dernière, il n'y a pas eu, c'est une exception, l'année dernière, il n'y a pas eu d'édition. Et cette année, c'est à Lille. Et donc voilà, donc ça fait 10 ans que ça a lieu, cette conférence.
Le fait que vous accueilliez à Lille des gens qui viennent d'autres universités, etc., c'était un bon moment d'échange ?
Bien sûr, c'était un très bon moment d'échange. C'est la deuxième fois que ça revient dans le Nord-Pas-de-Calais. Mmh. Il y a 10 ans, la deuxième édition, c'était à Calais. Et cette année, c'est à Lille, ça revient à Lille. Donc, c'est toujours un bon moment pour les doctorants d'autres universités de venir découvrir la recherche qui se passe à Lille, les jeunes chercheurs qui sont à Lille, et d'échanger avec eux.
S'il y avait des choses à améliorer, par exemple, pour l'année prochaine, ce serait quoi ?
Ce qui a été très paradoxal, c'est, pour un détail, c'était la communication avec la Belgique. Notre voisin immédiat était très difficile. On a eu très très peu de participants belges, on peut compter sur les doigts d'une main, alors qu'ils sont juste à côté. Alors, bon, j'imagine que c'est une politique de recherche peut-être différente que je... Voilà. Mais on avait pensé vraiment faire... On est voisin de la Belgique, on a pensé ça va marcher avec les Belges. Et au final, on a eu beaucoup plus de participants d'Algérie, de Tunisie, États-Unis, Chine. Et les Belges à côté, non. Alors, l'erreur vient peut-être de notre part, on s'est peut-être pas adressé aux bons interlocuteurs. Mais voilà, quoi. Au final, international, mais sans la Belgique.
Est-ce que ces échanges internationaux sont facilités et par qui ?
L'existence en fait de ce qu'on appelle les mailing lists, en fait, il y a des, comment dire, ce sont des listes où on s'inscrit et en envoyant un mail, il est envoyé à tous les membres de cette liste. Et donc souvent, il existe des mailing lists thématiques. Dans les réseaux, il en existe une qui est très connue au niveau mondial. Dans toutes les thématiques scientifiques, il y a une liste et donc par ce biais, on peut contacter chaque communauté de recherche de tous les pays du monde et toucher un maximum de personnes. Alors après, c'est le problème d'être noyé dans la masse, parce qu'il n'y a pas que Majestic.
Et vous aviez prévu de l'écrire aussi en flamand ?
Ah non, je ne suis pas compétent en flamand.
C'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné.
Alors Majestic est une conférence francophone et c'est une obligation forte du comité, d'où la participation des pays d'Afrique du Nord qui parlent français couramment, de la Suisse et autres. Et le fait aussi qu'il n'y ait peut-être pas trop d'étudiants anglais, parce que, voilà, francophone, obligation forte par tradition de Majestic.
Voilà, donc une partie de la Belgique automatiquement exclue maintenant.
Voilà, effectivement.
Sinon, vous allez dire peut-être que ça ne nous regarde pas, mais vos projets personnels pour l'année prochaine
Mon principal projet personnel, c'est de finir ma thèse. Donc là, je commence ma troisième année. Et le seul objectif que j'ai maintenant, c'est finir cette dernière année et obtenir mon diplôme de thèse.
En quelle discipline ?
Donc dans les comités d'organisation, on est 3 doctorants en informatique. Et moi, je travaille au niveau de génie logiciel et la gestion d'énergie dans le logiciel.
Voilà, donc moi aussi, je suis en informatique, dans l'informatique des réseaux. Aussi, mon objectif, c'est de soutenir avant le 31 septembre 2013. Et je profite aussi pour citer l'absente pour raison personnelle, Pamela, qui nous a bien aidé quand même pour organiser, qui est aussi en troisième année. Parce que Majestic, c'est quand même 1 an de travail. Donc, on a commencé en deuxième année pour que ça se tienne au début de notre troisième année. Voilà, et puis Rama.
En fait, tout à fait, pour l'équipe organisatrice, ils se sont engagés dans l'organisation de cette conférence depuis plus qu'un an. Donc, organiser une conférence en parallèle à la thèse, c'est pas trop évident, mais c'est enrichissant tout de même. Moi aussi, je suis à la fin de la deuxième année de thèse, et mon objectif pour l'année prochaine, ça sera de finir ma thèse et de la soutenir. Et ma thèse, c'est dans le domaine de l'optimisation combinatoire. Donc on utilise l'informatique comme outil et c'est appliqué à la logistique.
Alors moi, ma thèse, je l'ai déjà. Donc, mais je viens de changer de thématique. Donc moi, mon but cette année, ça va être de trouver un nouveau doctorant et de m'insérer dans ma nouvelle thématique qui est la maintenance de gros logiciels.
Alors, puisque vous avez déjà une thèse, est-ce que vous pourriez donner quelques conseils à ceux qui vont s'y mettre à leur thèse maintenant ? Je sais qu'ils ont beaucoup de travail en général, mais...
Oui, ils ont beaucoup de travail. Alors, avant de faire une thèse, il faut savoir pourquoi on fait une thèse. Et parce que c'est un engagement complet pendant 3 ans. Alors, on espère pendant 3 ans sur une thématique donnée. Et on n'a pas cette habitude-là. de travailler autant de temps sur un sujet particulier. Il faut de la persévérance, il faut beaucoup d'ouverture d'esprit, et puis c'est vraiment quelque chose de très beau et un grand partage avec à la fois son directeur de thèse, mais aussi la personne qui partage le bureau ou d'autres personnes à travers le monde qu'on peut rencontrer dans des conférences. Donc c'est une très belle expérience, mais il faut quand même réfléchir avant d'y aller.
Est-ce qu'il y a une différence entre faire une thèse à Paris 1 et une thèse à Lille 1?
Alors, la différence ne sera pas à Paris 1 ou à Lille 1. La différence va être que moi, j'ai fait ma thèse dans un laboratoire qui n'était ni CNRS ni INRIA, contrairement au LIFL. Donc les moyens ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on a cette chance au LIFL, de par les deux organismes de tutelle, en plus de l'université, d'avoir des ingénieurs pour nous aider, d'avoir énormément de personnel administratif aussi, qui fait que le doctorant peut se consacrer plus à sa thèse, à ses recherches, qu'à toute cette partie administrative au développement. Même si, en informatique, il est préférable de développer quelque chose à la fin pour pouvoir montrer et dire que ce qu'on a fait, c'est faisable.
Merci. Donc, le prochain rendez-vous sera l'an prochain. Ce sera peut-être une autre équipe, alors ?
Alors, ce sera très certainement une autre équipe parce que eux, ils seront vraiment en phase de rédaction de thèse et ils n'auront vraiment pas le temps. En revanche, je ne pense pas que la ville soit déjà décidée. Donc, s'il y a des gens au travers de la France qui nous écoutent et qui veulent faire Majestic 2013, je pense qu'ils seront les bienvenus.
Un contact ?
Alors, je vais donner le site de la conférence, www.lifl, comme Laboratoire d'informatique fondamentale de Lille, donc .fr/Majestic, M-A-J-E-C-S-T-I-C, et 12-1-2. Voilà, vous aurez le site de la conférence et nos emails.
Mais merci à tous et à toutes. Au revoir et bonne soirée.
Au revoir.